BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Happy Boulot, le mag, en direct à la radio, à la télé, et bonjour à vous qui nous écoutez en podcast. Cette semaine, on va parler des négociations annuelles obligatoires. Elles ont sans doute lieu dans votre entreprise. C'est un grand moment de dialogue social, pas toujours bon, parfois très bon. On en parle avec Claire Morel, qui est membre du comité de direction de Syndex. On parlera ensuite de ces 4 Français sur 10 qui ont envie de se reconvertir, de changer de voie, voire de devenir entrepreneur. Ça fait rêver. Quels sont les freins? Quelles sont les motivations? On en parle avec 2 personnes. On en parle avec Karine Selnik, qui est la fondatrice de Test un métier, et puis avec Frédéric Lavenir, le président de l'ADI. Et puis pour finir, dans la caisse à outils des entreprises qui peuvent peut-être vous aider à trouver du boulot, surtout si vous avez moins de 25 ans, c'est Jobamax, une application qui vous permet en 10 secondes de postuler, et tout ça avec les codes des réseaux sociaux, avec les codes des applications que les plus jeunes, et pas que les plus jeunes, que beaucoup d'entre nous utilisons au quotidien. C'est le programme de cette émission, de cet épisode. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Ce sont sans doute les négociations annuelles obligatoires dans votre entreprise. Et bien justement, c'est le sujet de ce premier entretien avec Claire Morel. Bonjour Claire.
Bonjour Rennes.
Vous êtes membre du comité de direction de Syndex. Avec vous, on est sur un cabinet d'expertise qui parle, qui chuchote à l'oreille à la fois des partenaires sociaux, mais aussi des entreprises plus largement. On va parler de ces négociations en période d'inflation, des méthodes et des bonnes pratiques, mais on va rebondir sur quelques chiffres d'une étude, même plusieurs études que votre cabinet publie. D'abord, 90% des accords d'entreprise prévoient une augmentation générale ou des augmentations générales. Comment on explique ce chiffre ?
Alors effectivement, c'est ce qu'on a pu constater, nous, dans les négociations qu'on a étudiées cette année. On explique ce chiffre déjà parce que c'est une revendication ancienne de la part des représentants du personnel et des délégués syndicaux de privilégier les augmentations générales qui sont pour tous les salariés, qui sont pérennes dans le temps, contrairement à une prime qui va être une seule fois dans l'année et pas reproductible l'année suivante. La deuxième chose qui explique ce pourcentage d'augmentation générale, c'est évidemment l'inflation. Mmh. Là, les entreprises, elles ont bien été obligées d'écouter les représentants du personnel pour permettre ces augmentations générales au regard déjà de l'effort qui a été produit pendant les années du Covid, où là, il y a eu le chômage partiel avec des baisses de salaire, moins d'heures supplémentaires, des primes variables extra moins importantes, et évidemment, au regard de l'inflation et l'augmentation du panier moyen.
On prend le pouls du dialogue social avec vous, Claire, et en parallèle de ce chiffre-là de 90% d'accords d'entreprise qui prévoient d'augmenter, on a un autre chiffre qui est qu'en gros, 50% des gens que vous avez questionnés considèrent que les conséquences de l'inflation que vous venez d'évoquer ne sont pas assez prises en compte dans les négociations. Comment on parle d'inflation dans l'entreprise ?
Bah, tout simplement, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les augmentations qui ont été attribuées, même si elles sont générales, elles sont en dessous de l'inflation. Et ça, on le voit
dans
les études.
De l'ordre de 2,5%.
Entre 2 et 2,5%. Et dans notre dernier baromètre qui parle de l'état d'esprit du dialogue social actuellement, on a aussi posé des questions, et même les directions qu'on a interrogées décrètent à peu près une moyenne de 3,6% d'augmentation. Donc, ce n'est pas 2,5%. Mais le panel est plus large, mais c'est quand même largement en dessous de l'inflation, y compris les directions le reconnaissent elles-mêmes, qu'elles donnent 3,6% en moyenne en 2022 et qu'elles envisagent de donner aussi 3,6% en 2023, donc toujours en dessous de l'inflation. Donc effectivement, l'inflation, on n'en parle pas assez bien finalement dans les entreprises, parce que les délégués syndicaux et les salariés veulent plus que les 3,5%, veulent au moins l'inflation 5%, sachant que le panier moyen est plutôt autour de 10-12%. Donc, en termes de l'inflation, c'est une moyenne de différents types de biens. Et donc, de fait, on n'en parle pas si bien que ça. On en parlait bien avant, c'est-à-dire que les directions aimaient bien dire
que
là, il n'y en avait pas, donc pas d'augmentation générale. Et là, maintenant qu'elle existe, c'est plus difficile pour les directions d'accepter. Donc, du coup, c'est là aussi où il y a tout un rôle de négociation de la part des représentants des salariés, de prendre le pouls aussi des salariés, de faire entendre la voix des salariés qui, eux, veulent des augmentations. Mais c'est vrai qu'à ce stade, ça n'est pas encore compensé. C'est pour ça que les élus essayent d'aller voir d'autres compléments pour compenser l'absence d'augmentation à la hauteur de l'inflation, et d'autres compléments dans les dans les négociations, comme les primes et les aides au transport ou les aides à la restauration.
Est-ce que justement, en parlant de primes, la prime de partage de valeur exprime Macron, maintenant on l'appelle la PPV, elle ressort comme dans la boîte à outils, quelque chose qui est bien utilisé, bien appréhendé, tant du côté des entreprises que du côté des salariés?
Alors, elle est moins utilisée que les précédentes primes, notamment en sortie du Covid, où là, il y avait eu beaucoup plus d'utilisation de ces primes. Là, elle est beaucoup moins utilisée. Alors, nous, on l'a retrouvée dans 11% de nos accords, mais il faut savoir qu'elle n'est pas uniquement attribuée par accord. Elle peut être attribuée de façon unilatérale. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 7000 salariés qui avaient eu accès, mais c'était les chiffres de Bruno Le Maire en novembre.
Ouais.
Donc, depuis, il y a dû en avoir plus. 700 000, pardon. Oui. Excusez-moi. 700 000. Donc, c'était pas énorme. Nous, on a pu voir que les moyennes de la prime d'avant, PPA, c'était à peu près 600-800 euros. Mais à ce stade, c'est pas encore beaucoup déployé. C'était quelque chose qui était beaucoup utilisé avant. Là, ça allait beaucoup moins, même si ça peut compenser certaines augmentations qui ne sont pas à la hauteur de l'inflation.
Bon, difficile de parler de dialogue social et de votre métier chez Syndex sans parler du CSE. Un autre chiffre, je ne veux pas trop vous assommer de chiffres, mais je vous renvoie à plusieurs des publications de Syndex. C'est 75% des élus qui se déclarent ou se déclaraient insatisfaits des négociations menées en 2022. Est-ce que ça va être mieux en 2023 ?
J'ai pas l'impression. On a vraiment un écart, en tout cas nous on l'a vu dans notre baromètre, entre les augmentations souhaitées par les représentants qui sont de l'ordre de 8%, parce qu'il y a à la fois l'inflation anticipée 2023, le rattrapage des augmentations qui n'étaient pas à l'inflation, donc les augmentations qu'ils souhaitent et celles qu'ils anticipent eux-mêmes, qui est autour de à peu près 4%. On voit bien qu'il y a un écart et donc on s'attend encore à des négociations tendues et des déceptions. Là, c'est clairement... Ça risque encore d'être compliqué en 2023, même si l'inflation est peut-être attendue comme étant en ralentissement, mais ça reste encore tendu pour les salariés.
Claire, votre cabinet, il forme, il conseille, il accompagne notamment les CSE, mais aussi plus largement les CE ou les comités d'hygiène. Vous avez une expertise européenne pour conclure cet entretien. Comment ça se passe ailleurs, dans les autres pays où vous travaillez?
C'est pas très différent. Alors, l'inflation a des niveaux parfois plus importants qu'en France. Ça peut dépasser les 10%, notamment en Pologne.
C'est l'Angleterre aussi.
L'Angleterre. En Angleterre, il y a eu pas mal de mouvements sociaux. Il y en a aussi en Allemagne. Donc, c'est pas beaucoup plus évident. En Espagne aussi, parce qu'ils ont eu aussi beaucoup d'inflation. Mais là, en Espagne, il y a eu des négociations un peu plus nationales, donc qui n'ont pas forcément abouti, mais des demandes un peu plus globales de la part des syndicats pour avoir des copies un peu plus générales qui concernent tous les salariés. Mais ce n'est pas beaucoup mieux dans le reste de l'Europe, même si en Allemagne, il y a eu des rapports de force un peu plus importants et parfois des augmentations qui ont dépassé les 10% dans certaines branches.
Est-ce qu'il y a un conseil que votre cabinet donne de manière transnationale en ce moment?
Alors, transnational et national, c'est vraiment de bien écouter le terrain et les demandes des salariés. Ça, c'est très important d'avoir la légitimité derrière soi des demandes des salariés, des attentes. Ça fait partie aussi des demandes des élus, hein, qui vraiment sont très attachés à la proximité avec les salariés. Donc ça, c'est vraiment important de bien connaître aussi la situation économique de l'entreprise pour bien comprendre le modèle économique, les ressorts un peu de la profitabilité de l'entreprise, des éventuelles difficultés quand ça arrive, pour trouver les marges de manœuvre. Et quand il y a des vraies marges de manœuvre, bien les connaître pour pouvoir négocier avec la direction et de bien estimer le poids que auraient les mesures pour pouvoir bien argumenter et montrer à la direction qu'en fait c'est possible.
Voilà, 40 ans d'expertise au service du dialogue social. Merci beaucoup d'avoir pris le pouls avec nous. Claire Morel, membre du comité de direction de Syndex de cette période de NAO qui s'ouvre ou qui se continue dans votre entreprise. On va continuer à parler d'entreprise et peut-être même d'auto-entreprise ou d'entrepreneuriat tout court, puisqu'on va parler de l'envie des Français de se reconvertir. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
À BFM Business, toute l'année, on vous encourage à monter votre boîte et à devenir entrepreneur. Mais c'est particulièrement la semaine pour créer sa boîte dans le calendrier de l'ADI. Bonjour Frédéric Lavenir.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ADI. Qu'est-ce que l'ADI ? L'Association pour le droit à l'initiative économique. Avec vous, on va parler de cette envie d'entrepreneuriat qui habite plus de 4 Français sur 10. En face de vous, c'est Karine Selnick qui est avec nous. Bonjour Karine.
Bonjour.
La fondatrice de Test un métier. Votre entreprise, elle permet, comme le nom l'indique, de tester des métiers. Vous allez nous parler de votre interface. On vous a tous les deux autour de cette table pour discuter de cette envie de nous, de vous qui nous écoutez, qui nous regardez, de vous reconvertir. Alors, Frédéric, donnez-nous quelques chiffres qui illustrent notre envie à tous, en tout cas notre réflexion, de changer de vie, de se reconvertir et pourquoi pas de bosser pour soi-même.
L'ADID vient d'organiser une enquête qui montre que 4 Français sur 10 ont le désir de se reconvertir, de changer de métier. Et sur ces Français qui ont envie de se reconvertir, il y en a également près de 4 sur 10 qui envisagent de le faire par la création d'entreprise en se lançant de manière indépendante. Et ça, c'est un chiffre qui nous a nous-mêmes surpris, tellement il est élevé, et qui probablement reflète une évolution de la société assez intéressante, dont on pourra peut-être parler.
Une vraie envie de changer de vie.
Oui.
Est-ce que Karine, avec Test un métier, vous sentez aussi en gestation beaucoup de gens qui sont dans la réflexion de changer de vie, pas seulement pour basculer à leur compte, mais pour changer de carrière, changer de secteur? Comment ça se matérialise chez vous?
Eh ben, nous, on est vraiment spécialisé sur la mobilité professionnelle, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise. Donc, on a envie de changer de métier à l'intérieur d'une entreprise ou à l'extérieur. Et changer de métier, c'est pas simple. Donc, la plupart des gens que nous avons aujourd'hui, que nous accompagnons, ce sont des gens qui sont déjà en transition, donc soit sortis d'un plan social ou accompagnés par un bilan de compétences ou sortis d'un cabinet d'outplacement et qui se posent des questions. Donc, dans les questions qu'ils se posent, on a très peu de personnes qui veulent faire le même métier. Donc, on est quand même entouré de milliers de personnes qui sont chez nous et qui se disent quel est le prochain métier. Et la difficulté qu'on rencontre pour nous, c'est quel métier faire. Donc, on se rend compte que changer de métier, c'est pas simple parce que souvent, les métiers sont méconnus. Il y a 12 000 métiers, j'imagine que vous ne les connaissez pas, moi non plus. Et donc, c'est comment on donne la possibilité à ces personnes d'identifier les métiers et aussi, pour certains, de devenir créateurs d'entreprise. Donc, on est vraiment sur comment, c'est notre activité, c'est comment on va permettre à ces personnes-là d'accélérer cette mobilité vers une reconversion, mais vers quel métier? Et donc, lever les a priori vers ces métiers-là.
Alors, un a priori qu'on peut peut-être, dont on peut peut-être se réjouir, c'est que les gens qui se reconvertissent sont plus heureux. C'est un des chiffres de votre baromètre,
oui.
Frédéric.
Oui, oui.
Ça se matérialise comment?
Ouais. La meilleure expérience qu'on peut avoir, c'est de discuter avec un créateur, quelqu'un qui a vécu une vie avec plein de métiers, plein d'activités différentes, et qui vous parle de son entreprise. Et vous comprenez ce que ça veut dire en termes de regard sur soi-même. Réussir le lancement d'une entreprise, c'est un succès qui est extraordinairement gratifiant. Et donc ça apporte énormément. Moi, je puisqu'on est dans un débat, moi je voulais rebondir.
Une discussion.
Ouais, c'est pas un débat parce qu'on est assez d'accord, je pense, sur beaucoup de choses. Mais je voulais rebondir sur cette question de découvrir un métier et savoir où il est. Nous, ce qu'on observe, c'est que en fait, c'est des processus très itératifs. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans notre petit livre qu'on a sorti à l'occasion de cette enquête, il y a plein d'histoires, mais à chaque fois, par exemple, vous avez une dame là qui a une histoire super, qui est aujourd'hui réparatrice de machines à coudre. Eh ben, je vous défie de trouver cette idée-là comme ça dans le journal où ça se construit par les hasards de la vie. Il y a des essais et puis ça marche pas. Et puis on découvre un truc et on s'y sent bien parce que on a exactement ce qu'il faut. Et c'est cette découverte de ce qu'on aime faire et de ce qu'on a envie de faire, c'est aussi un processus de vie. C'est ce que permet la création d'entreprise, mais c'est souvent ce à quoi aspirent tous ces gens qui disent j'ai envie de changer de métier. Ils savent pas nécessairement exactement ce qu'ils veulent. Et il faut, c'est exactement ce que tu disais, un contact, un frottement avec du réel. Pour découvrir que ça, oui, on a envie de le faire.
Les processus de vie heureux ou malheureux, il y a quelque chose que vous avez en commun tous les deux. L'ADI, c'est une association. Vous vous adressez à une typologie de personnes. Vous aidez des entrepreneurs à se lancer avec des financements qui ne sont pas forcément ceux dont on parle toute la journée sur BFM, des levées de fonds, le recours à la bourse ou au marché. On est sur une typologie assez particulière. Et vous-même, Karine, vous l'avez dit tout à l'heure, vous accompagnez des gens qui, par exemple, se prennent un plan social en pleine tronche. Des gens qui sont sortis de l'entreprise. Les processus de la vie, heureux ou malheureux, sont des occasions pour se trouver et s'épanouir. Donnez-nous une anecdote, un parcours de vie positif, Karine, pour inspirer ceux qui nous écoutent.
En fait, il y en a plein, puisque c'est des gens qui ont vraiment rencontré des professionnels des métiers vers lesquels ils pensaient ou ne pensaient pas aller, mais c'est vrai que c'est se donner envie de travailler ensemble. Donc des personnes qui sont sorties de la banque et qui sont devenues gestionnaires immobiliers, ou donc effectivement il y a des bascules qui sont plutôt cohérentes, mais sur CV ça ne se serait pas passé, ou peut-être qu'ils n'auraient jamais pensé à faire ces métiers-là. Donc des bascules, il y en a plein. J'ai encore eu aujourd'hui un message dans mon LinkedIn d'une personne qui a pu rencontrer un professionnel du métier vers lequel elle hésitait et qui me disait merci, ça me conforte dans l'idée d'y aller. Donc il y a toujours on est vraiment sur avant l'entreprendre, hein. On essaie de se dire mais comment je lève ces a priori en rencontrant des professionnels. Et donc les bascules, elles vont se faire dans le temps, c'est pas tout de suite. Et évidemment, alors sur sortie d'un plan social, on va faire son bilan de compétences, on va y réfléchir, et le fait de rencontrer des professionnels va vous permettre d'ouvrir ou de fermer des portes. Donc là, c'est vraiment un engagement, quelle que soit la fin heureuse, peut-être de ne pas aller vers le métier auquel vous aviez imaginé aller.
Voilà. Oui. Mais alors, mon histoire de réparatrice de machines à coudre, c'est exactement ça. C'est une dame qui avait fait plusieurs métiers, elle a travaillé, elle était comptable, elle a été... Puis ça n'allait pas, et puis un jour, elle fait réparer sa machine à coudre, ce qu'elle cousait, et le réparateur de machine à coudre, c'est un vieux monsieur, et elle réalise que quand ce vieux monsieur partira, il n'y aura plus personne pour réparer les machines à coudre dans la région. Elle se dit, mais pourquoi pas moi ? Et voilà. Et maintenant, elle a sa boîte, elle est absolument ravie, et elle a sa voiture, et elle va réparer des machines à coudre dans toute la région. Et c'est local.
Elle est dans quelle région, cette
Elle est, alors, de mémoire, je crois qu'elle est dans le sud-ouest.
Ouais. Mais je crois que ce qui est important de préciser, c'est que dans les critères aujourd'hui de recrutement ou de repositionnement professionnel, on vous met dans des filières.
Oui.
Il y a ce que vous savez faire, oui. Et donc il y a aussi les recruteurs vous mettent dans ces cases-là.
Absolument.
C'est-à-dire qu'un recruteur aujourd'hui va avoir envie de recruter quelqu'un qui a déjà fait le métier. Donc c'est aussi la prise de risque d'un recruteur recruter autrement que sur des soft skills ou sur des savoir-faire transférables vers les nouveaux métiers. Donc la prise de risque, elle doit être des deux côtés.
Oui.
J'ai peur d'aller vers de nouveaux métiers. Et donc, je confronte cette peur, je lève mes a priori. Mais sur les recruteurs, d'accepter de recruter autrement que sur CV et de présenter les métiers autrement que sur vidéo ou sur job board.
C'est l'intérêt de la création d'entreprise, c'est que là, vous n'avez plus qu'une personne qui doit sauter le pas, c'est celle qui crée. Il n'y a qu'une personne à convaincre, c'est soi-même, il n'y a pas de recruteur à convaincre.
Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le risque, c'est quand même le frein numéro un. C'est trop risqué. Après, il y a le contexte économique ou inflationniste, comme on dirait en ce moment dans beaucoup trop de médias. Et il y a aussi quand même cette préférence pour la sécurité du salariat et du salaire. Vous, Karine, c'est cette population-là que vous adressez, les salariés.
En fait, j'ai les deux.
Vous avez les deux.
Donc, dans Visio Métier, on a des milliers de personnes qui se posent des questions et des milliers d'ambassadeurs qui sont là pour répondre et lever les a priori. On a créé un espace spécifique sur création d'entreprise. Donc là, on a des centaines de professionnels de créateurs d'entreprise qui se mettent à disposition de ces personnes qui a envie de créer pour les rassurer sur le projet de création. Ils sont pas forcément dans les mêmes villes ni sur les mêmes métiers, mais ce sont des créateurs d'entreprises, donc ils sont là pour répondre à leurs questions et lever les a priori. Donc on a vraiment et à la fois des profils salariés et des profils créateurs d'entreprises.
Partager leur confiance et leur capacité à y arriver. Est-ce que c'est sur la confiance aussi que vous travaillez, l'association l'a dit ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que se frotter à quelqu'un qui a déjà eu l'expérience, c'est la meilleure manière de démystifier en fait cette création d'entreprise qui pour beaucoup est quelque chose d'énorme et qui en réalité finalement n'est pas si compliqué que ça, même si ça demande beaucoup de volonté et beaucoup de travail.
C'est vraiment ce qu'on appelle l'enquête métier. C'est-à-dire que dans le processus, quand on est en troisième, on aura de faire des stages, on aura de faire des périodes d'immersion. Et là, quand on est adulte en phase de reconversion, on n'a plus de dispositifs. Sauf quand on est demandeur d'emploi, on a quelques dispositifs. Mais sinon, quand on est salarié et qu'on a envie de changer, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, le plus possible, parler avec des professionnels des métiers vers lesquels on a envie d'aller, c'est vraiment une opportunité de se rassurer sur sauter le pas.
Un mot, c'était la semaine pour créer sa boîte. Quelle est pour vous la première chose à faire, Frédéric, pour valider cette envie de monter sa boîte et se dire « Ok, j'y vais ».
Alors, je crois que la réponse est très simple. Le statut social. Parce que vous disiez, l'un des obstacles majeurs, c'est le sentiment du risque. Alors le risque business, il existe toujours, hein, parce que les clients, il faut aller les chercher. Mais ça, c'est un risque que généralement tout le monde entend bien courir. En revanche, il y en a un qui est beaucoup plus difficile à accepter, c'est le risque de perte de la protection sociale. Et on a aujourd'hui un système de protection sociale qui est fabriqué pour des salariés et qui n'est pas fabriqué pour des indépendants, qui est plein de trous, parce que les droits ne sont pas attachés à la personne, mais ils sont attachés au statut. Et la couverture sociale et l'universalisation effective de la couverture sociale, on parle beaucoup de retraite en ce moment, c'est un grand sujet, mais il n'y a pas que ça, c'est probablement le grand sujet pour libérer la création d'entreprise et faire en sorte que chacun choisisse sa vie, non pas en fonction du petit statut social qui y est attaché, mais en fonction de ses appétences, de ses compétences et des opportunités. Et ça, c'est le grand sujet politique.
Je suis créatrice d'entreprise et j'ai pas de soutien financier si j'arrête mon entreprise.
Voilà.
Donc effectivement, ça c'est un vrai frein à la création d'entreprise. On a aussi des fonctionnaires hein, qui nous contactent en disant je suis professeur des écoles et en fait mon rêve c'est de faire autre chose. Et en fait, c'est aussi des profils qui sont coincés dans leur statut parce qu'ils n'ont pas accès au chômage.
Et leur statut et leur protection.
Exactement. Maintenant, parce qu'ils sont prêts à bouger, mais en même temps, ils n'ont pas le chômage et ils démissionnent, mais en même temps, ils n'ont rien à côté. Donc, effectivement, il y a peut-être des passerelles à proposer pour libérer ça et rassurer toujours la création d'entreprise.
Voilà, c'est un vaste sujet, difficile de résumer en 10 minutes, mais je vous remercie à tous les deux, Karine Selnick, fondatrice de Test en Métier, et Frédéric Lavenir, le président de l'Association pour le droit à l'initiative économique. Je conclue avec une de vos phrases, Frédéric. Se reconvertir, c'est exercer son droit de choisir sa vie, de rebondir et de se réinventer. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci à tous les deux. On va parler des plus jeunes et des outils pour les recruter. Restez avec nous dans quelques secondes.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Dans notre laboratoire RH cette semaine, je vous sors une nouvelle carte. Il s'agit de Jobamax. C'est une application qui permet aux jeunes gens, génération Z, de mieux trouver du boulot, de mieux se faire recruter. Et c'est Alexandre Guénoun, le fondateur, qui est avec moi. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors comment mieux résumer ce que fait votre application ?
Donc Jobamax, c'est une application de recherche d'emploi qui fonctionne comme les applications de rencontre. L'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes, donc nous on est sur une cible entre 18 et 30 ans, puissent trouver un emploi rapidement et surtout justement que les entreprises puissent également les recruter le plus rapidement possible.
Alors on va essayer de définir un peu mieux l'interface. Un chiffre, c'est un swipe toutes les 15 secondes. On est vraiment sur le rythme de Tinder.
C'est ça, justement l'objectif chez nous, c'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle propose l'offre d'emploi la plus adéquate au profil du candidat pour que le plus rapidement possible il puisse postuler et vraiment se poser les bonnes questions avant de postuler à l'offre d'emploi. Est-ce que ce job ou non correspond à ce que je souhaite faire et pour justement élever ma carrière professionnelle? Et de l'autre côté, on travaille à mi-chemin entre un cabinet de recrutement et un job board pour accompagner les entreprises dans le choix justement du profil le plus adéquat en fonction de leurs critères de recherche.
Alternative à LinkedIn ou à Indeed, pour citer quelques-unes des plateformes, ou à Région de Job, comment vous expliquez que c'est plus intuitif pour quelqu'un de 20-25 ans d'être sur votre app plutôt que d'aller sur un endroit plus classique ?
On s'est adapté justement au code de cette nouvelle génération. On se rend compte que cette génération, la génération Z, elle est surtout sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres. L'objectif, c'est d'aller vite pour cette génération. On le voit dans les livraisons de repas, lorsqu'on attend un taxi, par exemple. Donc nous, le but, c'était justement d'aller le plus rapidement possible dans la recherche d'emploi et de faire en sorte que cette étape ne soit pas fastidieuse, ne soit pas longue et que ça soit justement un plaisir de rechercher un emploi aussi bien le matin, le midi que le soir.
Un plaisir, en tout cas, une expérience pas trop différente des autres activités digitales ou numériques de la journée. Bon, alors on comprend du point de vue des jeunes candidats qui s'apprêtent à rentrer sur le marché du travail pourquoi utiliser votre plateforme. Côté recruteur, comment vous arrivez à convaincre les gens de se mettre dessus et quelles sont les typologies de postes qu'on trouve ? Est-ce que c'est très différent des job boards classiques ? Est-ce que vous avez des typologies de postes qui sont plus faciles à remarquer ? Est-ce que tout le monde peut venir ?
Alors nous, on est une plateforme généraliste. On touche aussi bien des métiers dans le commerce que dans l'ingénierie, dans le tourisme, dans le service à la personne. Alors, on touche vraiment à tout. On a tout type de profil sur la plateforme. Au niveau des entreprises, l'avantage, c'est qu'elle va être capable de travailler sa marque employeur. Le fait d'être sur cette plateforme, ça va aussi donner une bonne image auprès de cette nouvelle génération et donc d'attirer un vivier de candidats un peu plus important. Et également, nous, on va les conseiller, les accompagner sur quel est le profil le plus adéquat en fonction de mon offre d'emploi. Est-ce que je vais réellement rechercher? Et on va les accompagner dans tout ce processus-là en faisant justement les entretiens téléphoniques avec les candidats à la place de l'entreprise pour directement les mettre en relation pour les entretiens finaux.
Presque le rôle d'un chasseur de tête, mais très assisté par la technologie, disons, pour les premières étapes du processus.
Exactement.
Combien de temps un candidat qui consulte une offre met à décider s'il swipe à droite ou à gauche, d'accepter de postuler ou du coup de ne pas poursuivre la candidature?
Ça se fait en 10 secondes. Ça se fait en 10 secondes. Justement, pendant ces 10 secondes, le candidat, ce qu'il va regarder, c'est réellement les missions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va apprendre dans cet emploi, ce qu'il va faire dans son quotidien. Et c'est là où on conseille les entreprises d'être les plus transparentes possibles pour justement conseiller au mieux les demandeurs d'emploi.
Voilà, alors c'est pour tous les jobs, mais on imagine que les stages et les alternances sont un gros poids.
Alors nous, c'est 60% de CDI pour l'instant, 30% d'alternance, 10% de stage, mais ça évolue en fonction des périodes de l'année. Forcément, au mois d'avril, mai, on a beaucoup plus d'alternance. Ça se calme vers l'hiver et puis ensuite ça remonte.
Voilà, je vous renvoie vers Jobamax. C'était dans notre caisse à outils du Labo RH, la start-up de la semaine. Merci beaucoup, Alexandre Guénoun. Merci à toute l'équipe et merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission est à retrouver en vidéo à la demande quand vous le souhaitez sur notre plateforme de vidéo, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast en audio. Et puis, on est en linéaire le week-end, à la radio, à la télé, pour ceux qui nous écoutent de manière moins digitale. À la semaine prochaine pour continuer à parler management, vie de bureau et recrutement.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.